cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 29 février 96.
Toujours à partir du je suis, comprenons comment il y a l'unité en nous entre ce que nous pouvons regarder comme le premier absolu que nous découvrons en nous. Cet appel à la vérité et cette découverte progressive, mais que nous regardons là dans son terme, puisque c'est un regard ultime au point de vue philosophie première que nous essayons de voir ensemble pour préciser ces dimensions de la personne humaine. Cette capacité d'aimer l'ami dans le choix que nous faisons de lui, et qui nous permet de toucher dans l'ami un certain absolu. Il est mon bien et mon bien spirituel. Il est capable de m'achever d'une certaine manière. Je ne peux pas dire que c'est la partie spéculative qui est en moi. Ce n'est pas juste la recherche de la vérité, oui. C'est la partie de m'achever d'une certaine manière. Je ne peux pas dire que c'est la partie spéculative qui est en moi. Ce n'est pas juste la recherche de la vérité, oui. C'est la partie contemplative. Puisque spéculatif veut dire contemplatif, on devrait, du reste aujourd'hui dans le langage, quand on dit spéculatif, c'est tellement une modalité qui est assez désagréable. C'est contemplatif, on pourrait presque dire uniquement cela. C'est la recherche de la contemplation, de la vérité pour la vérité. Vous voyez, c'est pas uniquement cela, puisque c'est aussi l'amour d'amitié. C'est la partie spirituelle. Et la plus spirituelle qui est en moi. Mais nous sommes des êtres incarnés. Il y a une unité profonde entre l'âme spirituelle et le corps. Et cette incarnation du spirituel en nous, en chacun d'entre nous. Nous en sommes un peu responsables. Et elle nous est donnée comme un fait. C'est évident. Mon être, il est dans mon corps. Mon corps n'est pas seulement un avoir pour moi. Il fait partie de mon être. Et c'est en premier lieu cette découverte de cette sagesse pratique qu'est la prudence. Se connaître, connais-toi toi-même, de Socrate. Oui, c'est l'aspect de l'intelligence pratique. Parce que c'est à travers le devenir de mon être. Ce devenir, je l'avais déjà découvert dans la recherche de la vérité. Ce devenir, je l'ai découvert aussi dans l'amour d'amitié. Mais c'est proprement avec cette connaissance pratique, prudentielle, que je découvre mon devenir. comprenez aussi que dans cette croissance, il y a certains moments particuliers. Oui, c'est là où je peux, dans un regard métaphysique, je ne dis pas encore de sagesse au sens absolu, puisque c'est avant la découverte de Dieu. Mais c'est dans la découverte de mon unité à travers cette très grande diversité, cette très grande complexité, que je découvre comment je suis un être capable de s'organiser. S'organiser, c'est-à-dire maintenir l'unité dans la diversité. Une chose est organisée quand l'unité est présente dans la multiplicité, dans la complexité. Quand l'unité est absente, c'est l'anarchie. Et je sens très bien qu'il y a en moi toujours des capacités anarchiques d'aller à droite ou à gauche, se laissant influencer par le milieu extérieur. C'est très net. Je me fais comme une personne humaine dans mon je suis, toujours dans la lutte. Et c'est peut-être là où je sens le plus la lutte. Parce que mon devenir dans mon corps, dans ma raison, vous voyez, je découvre là la raison. Il y a tout un aspect de réflexion, il y a tout un aspect de gouvernement, d'entre-pratique, qui est cette découverte de la prudence. Vous voyez, quand en éthique proprement humaine, fondamentalement humaine, après la découverte de l'amour d'amitié, après avoir analysé tous les éléments de l'amour d'amitié, je vois que je suis capable de progresser dans cet amour d'amitié. Cet amour d'amitié implique un certain absolu que j'atteins jamais pleinement. Personne ne peut dire qu'il a aimé quelqu'un suffisamment, qu'il ne pouvait pas l'aimer plus. Je sais très bien, dans mon je suis, et dans la découverte du je suis de l'autre, de l'ami, que j'aurais pu l'aimer beaucoup plus. Il y a une question de temps. Les Grecs étaient très sensibles à ça. C'est long d'aimer vraiment et d'établir des liens d'amitié. Le temps doit être assumé. C'est au-dessus du temps. Parce qu'il y a quelque chose dans l'amour d'amitié qui est libre par rapport au temps. Ce premier moment de l'amour, qui est quelque chose qui est absolument en dehors du temps et en dehors des circonstances. Je peux décrire ensuite les circonstances. La première fois où Jacob découvre le visage de Rachel, il y a quelque chose d'éternel. On verra ça. Et on pourra regarder comme Jacob Rachel. Et on verra qu'elle est très belle. Et on comprendra comment il y a eu cette espèce de coup de foudre dans le cœur de Jacob. Il était angoissé, Jacob. Ça l'a pacifié. pour lui un facteur de grande paix. Ça, c'est sûr. Parce que dans sa course éperdue, Ésaü le poursuit. Il découvre Rachel. Vous voyez, il y a une espèce de stabilité qui se fait dans la découverte de l'amour d'amitié. L'ami est comme le port. On pourra s'ancrer, on pourra se stabiliser. C'est vrai, au-delà de toutes les angoisses, au-delà de toutes les difficultés, les luttes, il y a quelque chose dans la découverte de l'ami qui stabilise, qui met au-delà de l'angoisse. Et je prends conscience de cette conquête constante de l'amour d'amitié à l'égard de ces luttes. Connais-toi toi-même. Dans la lutte, je dois me connaître. Autrement, je ne peux pas répondre. Je peux m'abandonner au sens très fort dans l'amour d'amitié. Je mets en toi toute ma confiance. Mais je peux le faire momentanément. Je sais que je suis dans une lutte constante. Et dans cette lutte, je dois avoir une conscience très aiguë de moi. Voyez, je dirais, à partir du je suis, je saisis le lien qui existe entre cette lutte dont j'ai conscience. On a conscience qu'on a lutté, et qu'on a lutté toute sa vie, et qu'on luttera toute sa vie. Il n'y a pas de vrai repos sur la terre. On est tout le temps dans la lutte. Conscience de cette lutte et on comprend conscience comment on peut dépasser cette lutte dans l'amour d'amitié. Il y a une certaine victoire et une victoire immanente dans l'amour d'amitié puisque l'amour n'est pas lutte. L'amour est paix, joie, épanouissement. On est au-delà du temps, quand on aime vraiment, dans l'amour d'amitié. Eh bien, dans le « je suis », je prends conscience que je suis à la fois quelqu'un qui est très conscient de toutes les luttes internes et externes. M'isoler complètement, même si je vis assez seul, il y a toujours un milieu qui est un milieu qui peut m'attaquer. Et je réponds, dans la mesure où je suis vivant, je réponds d'une manière pacifique, en laissant l'amour être victorieux de ses luttes. C'est là où je comprends le rôle très particulier de cette sagesse pratique. Vous voyez, c'est la conquête de l'amour sur les luttes. C'est la conquête d'une stabilité sur la lutte. C'est ça, prendre conscience, connais-toi toi-même, connaître son « je suis ». Socrate ne dit pas ça tout à fait. Mais je peux assumer ce que dit Socrate, se connaître dans le « je suis ». Et dans le « je suis », je vois ces deux pôles. Le pôle de la lutte constante. Là, on est tous d'accord qu'il y a un danger de regarder ces luttes uniquement d'un point de vue psychologique. Et de vouloir expliquer ces luttes par un point de vue purement psychologique, c'est un danger. avoir des explications. Pourquoi cette lutte? Pourquoi cette inimitié? Pourquoi je suscite des luttes? Il y a des êtres qui suscitent des luttes. Et qui aiment de les susciter. C'est ça qui est le plus extraordinaire. Parce que ils vivent dans le tourbillon. Et s'il n'y a plus de lutte, ils ont l'impression de plus vivre. Alors, il y a là quelque chose qui, psychologiquement, intéresse beaucoup. Le psychologue aime de voir ses luttes. Puisque là, il apparaît comme celui qui sera un pacificateur en éduquant. Mais c'est faux d'aimer la lutte. On aime la finalité et l'amour. Mais si l'amour d'amitié n'est pas suffisamment fort, si mon désir de vérité n'est pas suffisamment fort, je mettrai une certaine gloire à demeurer dans la lutte. Parce que c'est dans la lutte où j'ai une conscience beaucoup plus aiguë de ce que je suis. J'ai une conscience beaucoup plus aiguë de cette soif de dominer. La puissance, la prudence est au-delà de la puissance. Mais très facilement, je me complais dans cela. Mais ça explique tout l'aspect de la personne telle qu'elle est regardée chez les stoïciens. Le stoïcien, c'est l'homme combatif par excellence. Et je crains toujours que dans la psychologie, on maintient le combat pour montrer l'utilité de la psychologie. Et c'est curieux, c'est très subtil ça. Mais je crois que le stoïcisme nous fait comprendre cela. Parce que le stoïcisme a perdu le vrai sens de la finalité. Et c'est l'efficacité qui domine. Alors, quand l'efficacité domine, on aime le combat, pour le combat. Parce que c'est dans le combat qu'on saisit le mieux l'efficacité. Ça, c'est bien évident. C'est dans le combat qu'on saisit le mieux le rôle de notre subjectivité. C'est dans le combat qu'on voit le mieux comment on peut dominer la situation. Oui, tous ces caractères de la morale stoïcienne qui sont très intéressants à voir. La morale stoïcienne a joué un très grand rôle chez les pères de l'Église. Je dirais, la première morale chrétienne est très liée au stoïcisme. C'est pas étonnant, puisque c'était la philosophie contemporaine à Rome de l'entrée du christianisme. Le christianisme a eu d'abord à lutter contre le stoïcisme. Comme aujourd'hui, le christianisme a lutté contre le freudisme. C'est moins noble. Il y a une certaine noblesse dans le stoïcisme. Tandis que dans le freudisme, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de noblesse. C'est vraiment la jouissance qui domine et qu'on recherche. C'est une autre manière, vous voyez, ce serait intéressant à développer. C'est une autre manière de voir comment on peut ramener cette sagesse pratique, la prudence, à la vision stoïcienne ou à la vision freudienne, les deux extrêmes. Parce que c'est vraiment les deux extrêmes. Un stoïcien est désarmé devant Freud, et Freud est désarmé devant un stoïcien. stoïcisme, il y a encore une noblesse. Et c'est tout ce que Hésiode nous montre dans la lutte chez les dieux. C'est beaucoup plus de stoïcisme. On comprend mieux un Zeus combattant qu'un Zeus freudien. Le Zeus freudien, je crois que c'est une désagrégation du dieu amour, tandis que le Zeus stoïcien, c'est une désagrégation de dieu Sabaoth, dieu des armées. C'est important de comprendre ça. Parce que le problème de la prudence, c'est avant tout la conquête de l'intelligence pratique sur l'imaginaire. Le « je suis » est source d'image. Et je suis saisi par divers courants imaginatifs. Il y a le courant stoïcien, il y a le courant freudien, épicurien. Et c'est très net. Et là, on peut mettre, voyez, le double symbolisme que nous voyons dans l'Apocalypse. L'Égypte, Sodome et Gomorre. On a là le symbolisme du primat de l'efficacité, une morale d'efficacité, une prudence d'efficacité. C'est très souvent la prudence de chef d'entreprise. Qui regardent la survie nécessaire de leur petite entreprise ou de leur grande entreprise. Parce que quand c'est un mammouth, ça veut tout prendre. Il n'y a pas de limite. Alors on veut aller toujours plus loin dans l'extension. C'est l'imagination de la conquête, de l'efficacité. Il n'y a pas de limite. Et il y a une sorte de prudence d'efficacité qui est la contamination de la prudence par l'art. L'art au sens du pouvoir, de la domination sur une matière qu'on veut dominer, nos passions. Alors, je crois que pour bien comprendre ce qu'est la prudence, dans son sens le plus noble et le plus grand, il faut essayer de découvrir dans le « je suis » cette conscience de soi au milieu des combats et dans les combats, dans la lutte. Et ceci, si cette conscience est bien prise, si elle est ce qu'elle doit être, j'ai conscience de cette lutte et qu'il faut l'accepter, cette lutte. Il ne faut pas s'avouer vaincu. On doit l'accepter, mais on ne lutte pas pour le plaisir de lutter. Parce que quand on lutte pour le plaisir de lutter, c'est au fond un désir d'avoir conscience plus aiguë qu'on domine, qu'on est victorieux. Et donc, on cultive en soi cet aspect mauvais de la prudence qui ramène la prudence à un dominium, un pouvoir de domination. C'est pas le véritable dominium. C'est un dominium qui va vers le désir de dominer. Ou, au contraire, on s'avoue vaincu. Et alors, on se réfugie dans la joie, dans la jouissance. Freud, c'est une humanité vaincue qui se réfugie dans la jouissance. C'est pour ça qu'il se réfugie dans la nuit. Le jour, c'est stoïcien. On doit faire ça. Et la nuit, on peut enfin récupérer la jouissance. C'est très étonnant, mais je crois que c'est très éclairant pour nous de voir ces deux extrêmes. Pour conquérir la vraie prudence, qui est de connaître ce champ de bataille, de connaître ces capacités que nous avons, qui sont très grandes, du côté de l'irascible et du concupiscible. Nous avons un terrain merveilleux, capable de toutes les révoltes et capable aussi de toutes les grandes victoires. La prudence est là pour maintenir et accepter ce combat en vue de l'amour et en vue de l'amour d'amitié. Je ne peux être fidèle à mon ami que si je domine mon concupiscible. Je ne peux être fidèle à mon ami que si je domine mon irascible. Si je laisse aller mon irascible et mon concupiscible, il y a un ver rongeur par rapport à l'amour d'amitié qui fait que l'amour d'amitié ne pourra plus prendre vraiment possession de mon cœur, de ma volonté. Je serai dominé par cette soif de jouissance. Je serai dominé par cette soif de domination. Voyez la vision nouvelle de la prudence à partir du « je suis » au plan métaphysique. Je comprends que la prudence des actes prudentiels que je pose, que j'exerce, me permettent petit à petit d'acquérir cette vertu de prudence. Et cette vertu de prudence est vraiment une sagesse pratique. Elle établit non pas un équilibre. L'équilibre, c'est une fausse finalité. C'est la finalité du psychologue. Équilibré. Or, ça ne signifie rien d'être équilibré. Parce que chacun d'entre nous, nous avons un équilibre différent. Oui. Il y a l'équilibre du noceur. Il y a l'équilibre du vainqueur. Oui. Et l'équilibre du vainqueur, on tue tous ceux qui sont autour de nous et qui risquent un jour de dominer. L'équilibre d'Hérode. Il y a un roi qui est né, vite, vite, supprimons, alors on sera pacifique après. L'équilibre, c'est chercher par la prudence une fausse paix. Parce que la paix ne peut exister que dans un dépassement qui se fait dans l'amour. S'il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de paix. C'est l'amour qui donne la paix. C'est l'amour d'amitié. Et cet amour d'amitié qui peut s'étendre. Et à partir de là, qui peut regarder tous les hommes, la philanthropie, dans un véritable amour d'amitié. Et bien, la prudence est là pour petit à petit connaître et capter toutes les forces qui sont en moi en vue d'un amour d'amitié fidèle. Autrement, l'amour d'amitié ne sera plus capable d'être fidèle. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit que de la télévision qui excite la concupiscence, qui excite la domination. Et on voit que ça devient tellement fort que l'amour d'amitié ne peut plus demeurer dans la fidélité. La fidélité apparaît comme une espèce d'embourgeoisement. Ça prouve qu'on n'accepte plus le risque. Alors on reste fidèle. La fidélité du chien qui a un collier. Tu as un collier, c'est pour ça que tu es fidèle. Mais si tu aimais vraiment, tu aimerais l'aventure. Alors on confond l'amour et l'aventure et la conquête. Vous voyez, il y a là un problème qui serait très important à noter, de rétablir ce... peur de la prudence. Parce qu'on est tombé dans des caricatures terribles de la prudence. Oui, la prudence du Normand. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc, on ne décide jamais. Or, la prudence, se connaître en vue d'aimer, en vue d'être fidèle, en vue de progresser dans l'amour. La prudence n'est pas du tout un élément statique d'équilibre, de balance. La prudence est au contraire prendre conscience de toutes les forces qui sont en nous pour être fidèle dans une croissance constante de l'amour. C'est ça la grandeur de la prudence. Et c'est en ce sens-là que la prudence devient sagesse. Vous voyez, je dirais en éthique, on voit ce qu'est la prudence, mais on risque toujours de la voir d'une manière peut-être trop équilibre. Si je la vois dans la perspective du « je suis », on la voit dans la lumière directe de l'amour d'amitié, c'est-à-dire directement dans la finalité. Et alors à ce moment-là, on comprend ce dynamisme interne que la prudence doit me donner d'une conquête constante. Je ne peux être satisfait de moi, de mon « je suis », que si je suis dans une conquête permanente, en vue organiser toutes les forces du concupiscible et l'irascible vers l'amour. Vous voyez, il y a un aspect d'ordre beaucoup plus mis en lumière quand j'essaie de comprendre à partir du « je suis » ce qu'est l'acte prudentiel, ce qu'est l'acquisition de la prudence. Donc, connaissance pratique pour organiser tout mon capital de vie en vue d'un progrès de l'amour. Il n'y a pas de vraie prudence s'il n'y a pas d'amour d'amitié. Voilà ce que je comprends dans la perspective du « je suis ». Comme il n'y a pas de véritable amitié s'il n'y a pas un amour de la vérité. C'est cette vision beaucoup plus profonde de l'éthique que j'ai dans la personne humaine, puisqu'au fond la personne humaine, c'est le fruit d'un combat constant au point de vue moral. Et c'est le dépassement de la morale. dépassement de la morale. Ça reste moral, mais c'est un dépassement, puisque c'est une fin. Alors, je saisis dans cette compréhension de la prudence, de l'acte prudentiel, je saisis comment je suis un être, une personne humaine, dans cette très grande complexité de mes passions, de mon affectivité sensible et passionnelle, que je recherche toujours cette unité par le sommet, par l'amour d'amitié qui me finalise. Je vous disais, pas de vraie prudence sans l'amour d'amitié. Et c'est vrai, ça. En ce sens que la prudence implique un ordre. C'est l'intelligence pratique. C'est une sagesse pratique. Il faut tout ordonner. Pour ordonner, il faut une fin. Autrement, je ne peux pas ordonner. Et qu'est-ce qui est cette fin? C'est l'amour d'amitié. Et cet amour d'amitié ordonne par la prudence tout ce capital de vie que je porte en moi et que j'essaie de connaître. Et c'est dans un regard de prudence que je dois saisir le rôle propre de la psychologie dans mon « je suis ». Je vois le très grand danger de séparer la psychologie de la philosophie. Puisque en la séparant, je crois que connaître, c'est suffisant. La psychologie veut être une connaissance, alors qu'elle est au service d'un art. Au service d'une prudence, au service d'un art, l'art d'éducation, au service de la prudence, quand je suis moi-même mon propre éducateur. Et la psychologie me connaît toujours par la causalité matérielle des dispositions. Le moment précis où je dois regarder dans mon je suis, dans ma personne humaine, la place de la psychologie, c'est au niveau de la prudence. C'est pas au niveau de la vérité, c'est pas au niveau de l'amour d'amitié, c'est au-dessus. C'est au niveau de la prudence, où je dois juger dans un regard de connaissance pratique le rôle exact tel ou tel aspect psychologique. Et je vois que je ne peux jamais m'arrêter à la psychologie. La psychologie peut me donner des éléments, mais ces éléments, je n'ai pas le droit de les séparer du tout. Et le tout est un tout organique, prudentiel, finalisé par l'amour d'amitié. Alors, à partir de là, je vais essayer de comprendre tout le rôle organique de la prudence. Premièrement, le rôle organique de la prudence, maintenir en moi le sens de la justice. Je sais, en me connaissant, que j'ai un appétit de concupiscible terrible dès que je vois le bien sensible terrestre chez mon voisin. Je veux le faire mien. Ça me séduit. Quand je vois à côté de moi quelqu'un qui s'enrichit, immédiatement, je juge que la manière dont il s'enrichit n'est pas honnête. permet de me faire à moi-même justice. Il y a en moi, et ça je dois le percevoir dans cette lumière pratique de la prudence, il y a en moi une concupiscence à l'égard de l'argent. Et ce serait très important aujourd'hui de découvrir cette concupiscence pour maintenir la justice. La justice, c'est de respecter le droit de l'autre. Le jus, le droit de l'autre. Je ne comprends le droit de l'autre qu'à travers la justice. Parce que je ne peux pas comprendre spéculativement ce qu'est le droit de l'autre. Le droit de l'autre est une chose concrète, pratique. C'est sa relation à l'égard des biens qui l'entourent et de l'usage qu'il peut en faire. Quel usage puis-je faire de tel outil, de tel bien temporel, de l'argent qui est dans le tiroir du voisin? Je vois que lui en use très mal. Je sais que j'en userai beaucoup mieux, avec une prudence plus grande. Donc, si cet argent est fait pour l'homme, il est plus fait pour moi que pour mon voisin. Il y a toujours une petite part de vérité là-dedans. L'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. C'est un moyen, un pur moyen, mais un moyen, je ne dis pas extraordinairement valorisant, parce que c'est juste l'inverse, extrêmement séduisant. Parce qu'il me conduit au pouvoir. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Celui qui a beaucoup d'argent, qui a, par le fait même, un prestige, un pouvoir, qui va en fonction de son argent. Il vaut tant à cause de son argent. Bien, il faut que la prudence me donne un sens très aigu de la justice pour enlever cette séduction très particulière qui s'exerce aujourd'hui. Vous voyez, c'est peut-être, je ne dis pas le mal premier de notre monde, mais c'est sûrement parmi les maux modernes un qui prend une place très importante, la séduction de la fortune, de l'argent. C'est bon de la sentir pour lutter contre et pour maintenir le sens de la justice. Elle a une conquête. Il faut l'acquérir. On ne l'a pas naturellement. Il y a une vertu de justice. Ce qui prouve bien que notre volonté à l'égard de l'autre n'est pas naturellement à respecter son droit. Je vois dans notre monde d'aujourd'hui des injustices terribles, même chez ceux qui devraient gouverner, avoir un sens de l'honnêteté. Comment ça se fait que cette séduction de l'argent s'empare de tous à un plan invraisemblable? On considère comme une chose très rare quelqu'un qui a une honnêteté parfaite et qui respecte parfaitement les droits de l'autre et qui peut très bien voir que cet autre emploie très mal sa fortune. Et s'il n'est pas celui qui doit le corriger. Aujourd'hui, tout le monde veut corriger tout le monde. Il parle le fait même qu'on ne corrige personne. C'est très curieux, ça. Vous voyez, certains journaux qui corrigent tout le monde. La presse veut corriger n'importe qui. On dénonce les erreurs et on corrige sans aucune autorité. Climat assez terrible de la séduction de l'argent pour le pouvoir, pour dominer. Donc là, il y a quelque chose de très important pour nous à maintenir le point de vue du droit. Alors, ce qu'il faut dans le je suis et dans cette perception du je suis, bien comprendre. L'amour d'amitié me donne un sens particulier du droit de l'ami. L'ami a un droit particulier comme ami, qui n'est pas le droit unique de la justice. Mais l'amour d'amitié qui me donne le sens du droit de l'ami sur moi. Que ce droit d'ami ne peut être vécu, ne peut être présent que si le droit de la justice est respecté. Et saisir les liens, et ça, c'est le rôle de la prudence et de la connaissance que je dois avoir de mes droits. Ce lien avec l'ami. Le jus, le droit de l'amitié, de l'ami sur moi. Et le droit naturel que j'ai. Le droit à partir de mon travail sur les diverses acquisitions et sur le fait même, le prix, les diverses alliances que je peux faire dans le domaine de la justice. C'est la prudence, connaissance pratique, qui peut seule préciser cela. Dans le je suis, je dois préciser les limites de mon droit. Ai-je le droit à disparaître quand la situation devient trop difficile? Tout le problème de pouvoir régler l'heure de sa mort. De la connaissance et de la technique. que j'ai le droit. Alors c'est là où je vois le lien entre le droit naturel et ma finalité. L'amour d'amitié. Et c'est vrai, c'est dans la lumière de l'amour d'amitié que je vois et que je saisis les limites de mes droits. Puisque dans l'amour d'amitié, je suis relatif à un autre. Et je coopère avec lui. Et je veux coopérer avec lui. En vue de l'aimer. Et en vue de découvrir ensemble notre finalité. Et ceci limite mon droit. Ou plus exactement, donne un sens vital à mon droit. Oui, on oublie trop que la justice, pour chacun d'entre nous, ne peut s'exercer et se comprendre que dans les lumières de l'amour d'amitié, qui est ma fin pratique, qui est ma première fin pratique. J'aurai un autre regard sur la justice lorsque je découvrirai en moi la dimension religieuse, la dimension d'adoration. Mais voyez, dans un monde comme le nôtre, on a une tendance terrible à diminuer le droit de l'amitié, le jus amicitiae. Et on ne regarde plus que le droit légal. Alors on abstrait le droit de la finalité propre de l'homme et on fait uniquement un droit qui consiste à dire « je ne serai pas poursuivi par la loi, donc j'ai le droit ». Mais non, la loi peut être un garde-fou et la loi ne commande pas immédiatement ce que je dois faire. Ce qui commande directement ce que je dois faire, c'est ma finalité. Il y a donc là un lien très important à souligner et à creuser entre l'amitié et la justice. Et mon « je suis » me fait comprendre cela d'une façon très forte. Parce que si je ne respecte pas le droit de l'autre, je supprime l'amitié. Et si je crois que le droit de l'autre est absolu et que je ne vois plus que cela et que je mets le droit légal au-dessus droit d'amitié, je tue ma finalité, je supprime ma finalité, et donc je supprime en moi quelque chose de très important, de capital. Et si je vais plus loin dans ma recherche de la vérité, je comprends que cette recherche de la vérité implique et réclame une vérité pratique, celle de la prudence. Et c'est la prudence qui me permet de comprendre la vérité pratique, voyant constamment ces liens entre le droit de l'amitié et le droit légal. Le droit tout court. Donc il y a là une découverte nouvelle de la justice. Alors ici, c'est la prudence qui doit humaniser l'irascible. L'irascible est une force sauvage, analogue à ce que je vois chez certains animaux qui ont un irascible extraordinaire fort. Il faut que mon irascible devienne personnel et humain. L'éthique me montre la nécessité de dominer mon irascible. Ici, je dois le voir dans la lumière de la personne humaine, donc toujours de l'amour d'amitié. L'irascible, vous voyez bien ce que c'est. Conquérir ce bien difficile. L'irascible implique cette passion très très forte qui est en moi de vouloir à tout prix dominer l'autre. Dominer l'autre. Quand l'irascible est déchaîné, on est en face de quelqu'un qui, au fond, veut mordre. C'est toujours par là que ça se manifeste. On veut mordre l'autre. On veut le manger. Impossible. Et on confond le possible et le réel. Ça explique les colères. Parce que la colère, c'est la passion de l'irascible qui veut que ce qu'on considère comme possible se réalise. La prudence va cultiver humainement. Laisse libre cours à l'irascible, l'amour d'amitié.